J'étais surpris finalement que ça intéresse ou que ça interpelle à la fois les enseignants et les élèves. Alors malheureusement, coaching, pour l'instant, c'est plus TF1 et M6 qui donnent le ton avec leurs émissions. Vous avez pu voir traîner des coachs, des super nannies et autres personnalités diverses. Alors ce que je fais moi dans le coaching, c'est beaucoup moins spectaculaire. Je vais essayer de vous expliquer en quoi ça peut vous concerner à la fois en tant qu'élève, étudiant, mais aussi bientôt professionnel, puisque dans les entreprises, on parle aussi de coaching. Alors, coacher, vous avez vu un petit peu ce que ça donne dans les pubs, on coache sa vie, on coache ses cheveux. Moi, c'est pas très utile. On coache tout un tas de choses, hein, et au final, c'est devenu un mot valise. On remplace, on entend parler de parents qui coachent leurs enfants, d'enseignants qui seraient des coachs, de chefs d'entreprise qui coachent leurs collaborateurs. C'est tout et n'importe quoi. Donc on va essayer de mettre ça un petit peu à plat. Et pour ça, je vais essayer de vous donner quelques repères pour que vous compreniez d'où ça vient, cette histoire de coaching. Donc un peu d'historique, une définition, et puis un mode d'emploi en essayant d'illustrer par des cas, hein, par des situations de coaching que j'ai eu à conduire pour que vous voyez comment ça fonctionne, ce que ça peut apporter, et puis ce à quoi il faut être attentif. Alors en fait, en France, on en parle depuis à peu près une dizaine d'années, 10 à 15 ans. Hein, le grand boom, le mot coaching a vraiment explosé à peu près au même moment que l'université de tous les savoirs naissait, puisque c'est autour de l'an 2000, effectivement, qu'on a vu s'afficher le mot coaching un peu partout. Alors, plus prosaïquement, j'ai découvert le coaching au Québec, où j'ai été formé en 97-98, et un peu avant encore. Donc les Québécois étaient beaucoup plus en avance que nous dans ce domaine. Ils appellent ça l'accompagnement individualisé au changement, hein, parce qu'ils ne disent pas coaching vu que c'est un mot anglais et que ce n'est pas bien de parler anglais. Donc voilà. Donc, bon, en même temps, accompagnement individualisé au changement, c'est long, mais ça parle quand même de ce dont il est question dans le coaching. Dans le coaching, il est question d'accompagner un changement, d'accompagner une transition, et c'est plus le mot accompagnement qui parle. Moi, je suis bien le Québécois, hein, mais... Très souvent, sur le mot coaching, quand on cherche l'origine, on lit que coaching viendrait de cocher, du vieux français cocher. C'est pas tout à fait vrai et c'est important de ne pas tout à fait le considérer comme ça. Ça vient du mot anglais coach, et le coach, c'est le véhicule, c'est la voiture. Vous avez dans les trains anglais, vous avez le sleeping coach, c'est la voiture, c'est le wagon-lit. Hein. Donc c'est pas le cocher, c'est bien la voiture, c'est-à-dire c'est ce qui nous transporte. Alors bien sûr, il y a un cocher, mais lui se contente de mettre en mouvement le véhicule pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire pour aller là où le voyageur a souhaité aller. Et on est tout à fait, au travers de cette métaphore, dans le sens du coaching. Le coach accompagne une personne pour atteindre un objectif, ou pour aller quelque part où elle a choisi d'aller, tout en ayant des difficultés éventuelles à y aller. Donc elle attend du coach qu'il l'aide, qu'il l'éclaire sur ce chemin pour aller vers ce changement. Donc on a dans cette métaphore du véhicule tout à fait cette idée de coaching. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui change? On est dans, notamment dans la vie professionnelle, on est dans l'univers de la complexité. Vous avez peut-être entendu parler, ne serait-ce que si vous avez vu le film de Charlie Chaplin, Les Temps modernes, du travail à la chaîne, de ce qu'on appelait la taylorisation, donc d'ouvriers qui, pendant des heures, effectuaient le même geste. Et on ne leur demandait pas de penser, on leur demandait de faire. Et puis progressivement, dans les entreprises, dans le monde du travail, et c'est vrai aussi d'ailleurs dans les administrations, dans les services, tout change. L'introduction de nouvelles technologies, la réduction des effectifs conduit à responsabiliser de plus en plus les personnes, de leur demander d'être beaucoup plus autonomes. Hein. Et ça génère ce qu'on appellera souvent du stress, hein, des tensions, des inquiétudes. Ça remet aussi en cause, quand j'ai des responsabilités à prendre, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi, hein. Donc les problématiques que rencontrent les personnes dans le monde du travail sont tout à fait différentes de ce qu'on vivait il y a seulement 30 ou 40 ans. Hein, les phénomènes se sont vraiment accélérés. Et les coachs commencent à intervenir en entreprise pour accompagner justement des collaborateurs qui vont monter en responsabilité, en particulier qui vont prendre des responsabilités de management, donc qui vont être des responsables. On disait avant des chefs, maintenant on dit des managers. Mais le principe reste, c'est quelqu'un qui a une autorité, hein, qui est responsable d'une unité pour atteindre des objectifs, pour produire, pour réaliser les services pour lesquels l'entreprise se fait payer. Donc le coach arrive dans le monde du travail comme quelqu'un qui accompagne, qui aide. On a aussi une évolution évidente dans le monde du travail. On a quand même globalement une élévation du niveau de compétences et de culture des collaborateurs. Hein, rare, de plus en plus rare, sont maintenant dans une entreprise les collaborateurs qui n'ont pas un bac. Il y a une élévation globale du niveau de connaissances qui permet aux collaborateurs d'être plus autonomes, d'être plus responsables dans leur travail. Mais ça aussi, ça génère plus de stress. Parce que parfois, souvent, les collaborateurs me disent « Finalement, c'est bien plus confortable qu'on me donne un ordre, et puis je le fais, et puis comme ça, si je me suis trompé, je pourrais toujours dire « Ah ben moi, je fais ce qu'on m'a dit de faire. » Donc, l'autonomie et la responsabilité, ça génère des inquiétudes, ça génère du stress. Et très souvent, les demandes de coaching, elles sont autour de craintes, de peurs, ou de difficultés dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. Donc, plutôt que de vous parler que de coaching, je voudrais essayer de situer ça dans un univers plus global que j'appellerais celui de l'accompagnement. On a l'accompagnement, là vous êtes en plein dedans, l'accompagnement à l'acquisition de connaissances, de techniques ou d'outils, ce qu'on appelle la formation. La formation, c'est un accompagnement. Vous avez des enseignants, des professeurs qui vous accompagnent dans l'acquisition de compétences et de connaissances techniques en rapport avec un univers professionnel que vous avez choisi ou pas vraiment choisi. Vous avez choisi parfois par défaut parce que vous n'aviez pas bien quoi prendre. Mais en tous les cas, vous êtes dans un univers et on vous aide dans cette acquisition de connaissances et de compétences. On dira souvent qu'on est plutôt dans des savoirs, donc des connaissances, et des savoir-faire. C'est-à-dire, j'apprends à utiliser un outil, utiliser un logiciel, produire réaliser un objet, réaliser une opération, etc. Après ça, vous avez un deuxième champ dans l'accompagnement qui va s'appeler l'aide au choix, à l'action, avec l'aide d'un expert, c'est le conseil. Donc j'ai quelqu'un qui est un expert dans un domaine et qui vient pour m'aider, pour me donner des conseils à partir de la situation qui est la mienne. Je veux créer mon entreprise, je souhaite aller m'installer sur la vente de nouvelles technologies, mais je ne connais pas bien ce marché, je ne sais pas trop si ça va pouvoir se développer, je ne sais pas comment on attire le client, je vais consulter un conseil en marketing ou en commercial. Donc je vais chercher l'expert, celui qui va écouter mon besoin et qui va m'apporter une technique ou des connaissances que je n'ai pas moi. Troisième type d'accompagnement, c'est celui qui va porter sur le travail sur soi, sur la souffrance psychique, celle dont on a souvent bien du mal à parler, non seulement quand on est jeune, mais quand on est moins jeune, hein, et qui fait qu'on va aller rencontrer un thérapeute, hein, un psychologue. Alors, je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Souvent, il y a beaucoup d'incompréhension entre psychologue, psychiatre, thérapeute, etc. La différence fondamentale, c'est que le psychiatre, c'est un médecin. C'est donc le seul qui pourra aider ou accompagner également avec des médicaments, alors que le thérapeute est quelqu'un qui va vous aider, vous accompagner essentiellement donc, par des techniques qui vont passer par la parole ou par la gestuelle. Et enfin, donc ce petit créneau du coaching qui est en train de se développer, donc qui est plus un accompagnement sur l'émergence d'un projet professionnel, sur une difficulté dans l'exercice actuel de sa fonction, ou sur un outil mis à la disposition d'un collaborateur qui va prendre une nouvelle responsabilité, un nouveau poste. Donc on anticipe, on lui donne un moyen d'être finalement plus efficace, d'être plus pertinent tout de suite dans l'exercice de sa fonction. Donc ça peut aussi être un outil de développement en quelque sorte, hein, donc formation, conseil, thérapie, coaching, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à les différencier? Tout simplement parce que les intervenants, les acteurs sur le marché, ceux qui vont se dire coach ou thérapeute ou consultant ou formateur, ont souvent des parcours professionnels assez proches et peuvent même utiliser des outils semblables. Il y a des outils qu'on utilise en thérapie que j'utilise également en coaching. Ce qui est différent, c'est l'objectif, la finalité et le cadre. Ça, j'y reviendrai un petit peu après pour essayer de l'illustrer concrètement. Alors, qu'est-ce que c'est que le coaching? Alors, je suis administrateur d'une association qui s'appelle la Société Française de Coaching, donc qui est un groupement de coachs professionnels. On l'a défini assez simplement comme accompagnement limité dans le temps. Le coaching, c'est court. Voilà ce qui va faire une différence avec la thérapie, par exemple, ou avec la formation. Il faut passer quelques années avant d'arriver au bac, vous le savez. Donc, accompagnement limité dans le temps de personnes, d'équipes, pour le développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Effectivement, en France, on essaye de positionner le coaching comme une aide, un accompagnement dans le domaine professionnel. C'est beaucoup plus flou en Amérique du Nord, où il existe ce qu'on appelle le life coaching, donc une sorte de coaching de vie, où vous allez chercher un coach qui vous accompagne dans votre vie personnelle. En France, on essaye d'éviter ce champ, d'abord parce qu'il est assez mal délimité, et qu'ensuite, c'est vraiment l'ouverture à tout et n'importe quoi. Or, ce qui va poser difficulté à l'heure actuelle pour le coaching en France, c'est de trouver un coach qui soit un bon professionnel. Parce qu'à l'heure actuelle, n'importe qui peut se déclarer coach. Hein. Il n'y a pas de diplôme de coach, il n'y a même pas de cursus de formation qui délivrerait un diplôme reconnu par l'État. Il y a des formations pour devenir coach, mais ce ne sont pas des formations qui vous légitiment dans un métier comme peintre, maçon, technicien supérieur dans l'automatisme. C'est une appellation un peu floue. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est quand quelqu'un vous dit qu'il est coach, essayez de creuser un petit peu qui il est, comment il en est arrivé là, et qu'est-ce qu'il va vous proposer comme prestation. Parce qu'il y a vraiment, dans cet univers-là, à boire et à manger, comme on dit de façon un peu triviale. Alors souvent, quand on parle de coaching, on fait référence à la maïeutique. Là, vous êtes prêt à appuyer sur le buzzer. Est-ce que quelqu'un, ça lui parle, la maïeutique? Eh oui. Alors c'est vrai qu'en plus, j'en parlais tout à l'heure avec des enseignants. Vous n'avez pas de philosophie en terminale dans vos sections. Hein, sinon, vous auriez pu aborder Platon. Et si vous aviez abordé Platon, vous auriez pu rencontrer un personnage dans l'histoire qui s'appelle Socrate. Et Socrate, en fait, est présenté comme un monsieur, un sage, un savant, c'est quelqu'un qui détient les savoirs, qui en fait accompagne ses jeunes disciples tout en cheminant comme ça, il les aide à résoudre des problèmes ou des questions qu'ils se posaient. Il ne leur apporte pas les réponses, il les aide à accoucher de leurs réponses. Et si je prends le terme accoucher, c'est parce que la maïeutique, c'est cette idée de l'accouchement. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, Maïa était la déesse qui veillait aux accouchements. Hein? Alors pourquoi ça? Parce que à cette époque-là, on était dans l'idée que l'âme, l'esprit, que l'individu a eu plusieurs vies, et que donc celui qui accouchait en fait l'esprit non seulement de cette vie-là, mais des vies antérieures. Et que donc l'individu avait une somme de compétences et de potentiel bien plus élevée qu'il ne l'imaginait et que ça lui permettait de résoudre ses propres problèmes. Alors le coach n'a pas la prétention d'aller solliciter vos vies antérieures, mais il part du principe que très souvent, vous avez en grande partie les solutions à vos problèmes. Et que plutôt que d'attendre que quelqu'un vous apporte une solution, le coach va vous aider à élaborer progressivement votre solution. Il va, par des techniques de questionnement, d'écoute, par des outils qu'il mettra à votre disposition, il va vous aider à éliminer un certain nombre de fausses pistes et à déterminer votre piste à vous. Vous savez, le pire des coachs serait celui qui fait comme vos copains ou vos copines. Vous savez, à moi, à ta place, je ferais bien ça. Bah oui, sauf que justement, ce qui fait la différence fondamentale, c'est que l'autre n'est pas à votre place. Et que donc son point de vue, on peut l'entendre comme un point de vue, il est respectable, mais ça n'est que le point de vue de la personne telle qu'elle réagirait, elle, dans cette situation. Sauf que ce dont il est question, c'est vous. Donc, le coach, il est là pour vous aider à faire émerger votre solution, celle qui est bonne pour vous, en s'appuyant sur vos connaissances, vos envies, vos centres d'intérêt. C'est pourquoi, d'ailleurs, enfin, j'ai l'occasion de travailler avec des jeunes en situation pré-professionnelle, c'est-à-dire entre 17 et 22 ans, et on travaille sur la construction en coaching, donc coaching de projet professionnel. Et ce qui fait la différence avec l'orienteur ou l'orientation scolaire, dont je ne dirai rien, mais j'en pense pas moins, c'est que on est là pour accompagner la personne à élaborer son propre projet. Donc je ne sais pas ce qui est bon pour elle. Je vais lui donner des outils pour réfléchir à ce que sont ses préférences, ses envies, ses limites, le confronter aussi à ses rêves, parce que c'est bien gentil d'avoir des rêves professionnels, mais il faut aussi se donner les moyens de les atteindre. Donc il faut distinguer une envie et un projet. Un projet, c'est quelque chose dans lequel on a pris en compte les obstacles, les difficultés, les contraintes. Des fois, il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir se priver de sortir, il va falloir bûcher dur, travailler le soir au lieu de regarder la télévision. Donc il y a des enjeux, ce sont des choix à faire, on n'oblige personne, mais dans le coaching, on accompagne ceux qui ont envie de faire cette démarche. Donc je trouve que l'idée de Socrate qui chemine et qui aide ce faisant à arriver à la solution, c'est une belle métaphore, encore une fois, du coach qui utilise le coach, la voiture, pour accompagner. Et on est bien dans l'idée qu'effectivement, on va accompagner des changements. Mais des changements voulus par la personne. C'est ça qu'il faut bien retenir. C'est que le coaching n'est efficace que pour quelqu'un qui l'a demandé. On n'impose pas un coaching. Si t'es pas sage, t'iras chez le coach, ça marche pas du tout. C'est pas une punition, c'est un vrai choix. Ça demande un effort. Il faut, au sens théorique, bien sûr, se déshabiller un peu. Il faut parler de soi. Et ce n'est pas toujours confortable. Il faut aussi dire, là, on est moins à l'aise. Donc, il s'agit de livrer des choses de soi quand même, mais pas pour travailler sur l'intrapsychique, ce qui se passe dans la tête, mais pour le ramener à mon projet professionnel, mon envie, ma difficulté au travail... pourquoi est-ce que j'arrive pas, par exemple, dans mes études, alors que je travaille beaucoup, je bûche beaucoup, et puis finalement, à chaque fois, il y a l'échec. Donc ça renvoie bien sûr à la confiance en soi, ça renvoie à l'image que l'on a de soi. Il y a beaucoup de ces paramètres-là qui font que, vous voyez bien, on est à la frontière du psychologique, parce que c'est jamais très loin, et puis de la réalité de l'environnement du travail. Alors comment ça marche concrètement? D'abord, vous avez, et je vous conseille toujours, de choisir un coach en rencontrant au moins deux ou trois. Parce qu'il y a la compétence du coach, je le disais tout à l'heure, mais il y a également l'envie de travailler avec la personne. C'est une affaire de feeling aussi. Peut-être on rencontre quelqu'un, on n'a pas envie de travailler avec lui. Eh bien, on n'insiste pas. C'est un choix mutuel. Il faut avoir envie. C'est vraiment important, cette première notion. Deuxième chose, le coach doit vous aider à formaliser un objectif qui soit atteignable. C'est clair que si demain vous venez me voir en me disant « voilà, j'ai toujours rêvé d'être chanteur », pour moi ce n'est pas un objectif de coaching. D'abord il y a rêver, puis ensuite il y a un métier très mythique dont vous ne connaissez probablement même pas toute la partie arrière. Vous voyez que le côté strass et paillette. Vous ne voyez pas ce qu'est un chanteur qui est à l'heure actuelle de plus en plus un vulgaire produit qui est marketé, packagé et qui a une durée de vie limitée. D'ailleurs, il y a une date limite de consommation. Certains, c'est même encore plus rapide que d'autres. Donc, je vais vous faire élaborer, moi, ce que c'est qui, ce qu'il y a derrière ce projet. Peut-être l'envie d'être vu, d'être regardé, d'être admiré. Il y a certainement des tas de choses derrière ce mythe-là. Hein. Donc, il va falloir formaliser un objectif. Un objectif, c'est... ça suppose un résultat attendu. C'est-à-dire qu'un objectif, c'est quelque chose que je voudrais atteindre dans un certain délai. Donc on va formaliser cet objectif et je vais pouvoir vous dire si oui ou non, pour moi, c'est un objectif de coaching et si je peux vous accompagner sur cet objectif-là. D'ailleurs, pour qu'on en soit sûr, je vais vous demander de factualiser ces objectifs par des indicateurs. C'est-à-dire, si c'était arrivé, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui aurait de différent? Qu'est-ce qu'on vous dirait? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous sauriez faire que vous ne savez pas faire à l'heure actuelle? Par exemple, oser prendre la parole en public. Et c'est toujours du stress d'être là derrière. Vous avez des gens qui vous regardent et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Première chose à faire, surtout ne pas vous poser la question de ce que les autres pensent, ou que ça vous êtes mort. Hein, donc vous y allez et c'est pas grave. Il y a peut-être des gens qui disent, il est en train de raconter n'importe quoi. Mais rassurez-vous, on est toujours l'imbécile de quelqu'un, et encore j'ai pris un mot correct. Donc il faut s'y faire. Hein. Donc le trac, ça se travaille aussi. Hein, j'ai eu l'occasion d'accompagner effectivement des managers qui avaient peur de se retrouver face à 15 ou 20 personnes qui étaient leurs collaborateurs et de prendre la parole devant eux sans rougir, trembler, etc. Ça fait aussi partie du travail de coaching. Donc, je choisis mon coach, je définis un objectif. On définit bien évidemment un nombre de séances. Alors, j'ai dit tout à l'heure, limité dans le temps. Un coaching, ça ne dure jamais plus de 3, 6 mois. Mais on ne se voit pas souvent. On se voit 4, 5, 6 fois, c'est tout. Parfois une dizaine de fois, une dizaine de séances sur un an pour des coachings dans le monde professionnel. Parce que ce qui est important dans le coaching, ce n'est pas le coaching, c'est ce qui se passe entre. C'est-à-dire qu'on a du travail entre deux. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance, on définit un contrat et on bosse. Et on met en œuvre pour essayer, c'est la méthode aussi essai-erreur, hein, parce qu'on réussit aussi quand on ose en se tromper. Donc on essaye, on met en œuvre et on revient, on fait le point dans la séance suivante, on voit ce qui a marché, pas marché, on analyse le pourquoi et on y retourne et on progresse comme ça. C'est une méthode de progression, d'apprentissage aussi essai-erreur que vous pouvez connaître par ailleurs aussi dans l'univers de la formation. Alors je vais vous donner quelques cadres. Quelques exemples. J'ai un cadre, c'est pour ça. Mon esprit est allé un peu vite là. Alors, on est en entreprise, hein, d'accord. C'est un homme de 40 ans, bon, je l'ai appelé Sylvain, évidemment, il ne s'appelle pas Sylvain, tant qu'à faire, parce qu'en général, on évite de parler de ses clients en sachant qu'il pourrait être reconnu. Ça s'appelle de la déontologie. Donc, il a une brillante carrière. Il a été ingénieur, donc développeur dans des SS2I, et maintenant il dirige un service chez IBM. Mais alors il ne supporte plus du tout l'univers du groupe IBM, et l'univers des grosses entreprises en général, et il a un projet de changement professionnel. Il veut changer, il ne sait pas encore bien pourquoi, mais il veut changer. Et donc, le coaching a pour objectif de l'aider à déterminer un emploi cible, qu'est-ce qu'il va faire, et ensuite de bâtir et mettre en œuvre ce projet, de l'aider à aller vers. Donc en fait, comme élément saillant, ce que je vais vous renvoyer de son parcours, évidemment c'est en raccourci, c'est quelqu'un qui a eu un bac S, un bac maths, hein, assez brillamment. Il n'a pas eu le choix, c'était exigé par la famille, donc il a reproduit, ou il a plutôt produit le projet familial. C'est quelqu'un qui a toujours eu le goût des arts, du beau, etc. Et qui en fait a toujours travaillé dans des univers de recherche, de développement... Et il n'était pas du tout dans son univers. Et donc, en fait, en travaillant, en faisant émerger ses envies, en tenant compte de son parcours professionnel, en calculant le risque qu'il allait prendre, c'est quelqu'un qui a un poste très, très bien payé. Hein. Donc là, il prend le risque à 40 ans de changer totalement de métier. Eh bien, il a décidé de partir vers un poste de soit directeur général ou directeur adjoint, d'une petite entreprise dans l'univers du luxe. Donc, parce qu'il aime les belles choses, il a envie de travailler au plus près des belles choses. Donc, je l'accompagne sur cet itinéraire. Donc, vous voyez, le coaching, c'est un accompagnement, c'est une prise de risque. J'ai pris un autre exemple, vous allez voir, je ne le prends pas tout à fait au hasard. Christine a 22 ans, c'est la fille d'un dirigeant d'un très beau cabinet d'expertise comptable à Paris. Elle ne manque de rien, merci pour elle. Mais pourtant, elle est en échec scolaire, elle est dépressive. Elle a fait 4 années de droit, et au bout de 4 années de droit, elle vient péniblement de décrocher son DOG. Et fondamentalement, elle n'a pas envie de faire des études. Donc ça, c'est dans le coaching qu'on fait apparaître. Elle fait pour les parents. Okay, elle fait pour les parents, pas envie de faire des études. Les hautes ambitions qu'ont ses parents, pas du tout les siennes. Elle n'a pas du tout envie de faire, en gros, ce qu'on attend d'elle. Elle a juste envie d'un poste d'assistante. Elle a envie d'être assistante. Et on a travaillé donc récemment. Et elle vient de prendre, dans le cadre d'une alternance pour un institut université professionnelle, un poste d'assistante pour un groupe d'avocats. Alors elle est restée pour l'instant dans le domaine juridique, au moins elle amortit ses 4 années de souffrance, mais elle a juste envie d'être dans un métier où elle est plutôt derrière, en assistante, mais pas du tout envie d'être une brillante avocate, c'est pas son truc. Alors, si j'étais thérapeute, je pourrais travailler sur qu'est-ce qui bloque, quels sont ces blocages, pourquoi, etc. Je ne travaille pas sur le pourquoi. On a fait émerger un projet qui est sur le comment. Comment elle peut trouver une situation professionnelle qui lui convient. Maintenant, si elle veut plus tard travailler en thérapie sur le quels ont été les éléments dans son développement personnel qui font qu'elle aurait peut-être pu être une brillante avocate et qu'elle ne l'est pas, elle peut toujours le faire. Mais ce n'est pas le travail du coaching. Le coaching ne travaille pas sur le pourquoi. Hein, travaille sur le comment. Et sur le comment dépasser une difficulté, comment s'en sortir, comment évoluer, comment... On est dans ce domaine-là. Alors, qui est le coach? Qu'est-ce qu'on va trouver en face de soi? Je regarde le temps qui s'écoule quand même. Sur mes carnets de notes, il y avait écrit « élève bavard et peut mieux faire » en général. Donc pour le « peut mieux faire », j'ai essayé de progresser. Pour élève bavard, malheureusement, ça dure encore. Alors, qui est le coach? Combien ça coûte? Alors, des coachs, il y en a environ 20 000 dans le monde, dont 8 000 en Amérique du Nord. On en dénombre environ 1 millier en France. Après ça, il y a des gens qui disent faire du coaching, mais on ne peut pas les empêcher de le dire. Donc, en règle générale, d'où viennent-ils? Ils viennent du monde du conseil, du monde des psys, et ce sont aussi des anciens cadres, des cadres dirigeants d'entreprise. Il y a 57% de femmes, donc c'est une activité pour l'instant majoritairement féminine. Hein. Certains ont eu des formations spécifiques pour le coaching. Comme je vous l'ai dit, donc ça dure environ de 6 à 12 séances. L'amplitude de 4 à 6 mois, voire 1 an, hein, des séances de 1h30 à 2h, et puis ben, je répondrai ensuite, si vous voulez, à vos questions sur qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur des séances, parce que peut-être ça aussi, ça vous intéresse, mais si vous avez envie maintenant d'intervenir, ou de poser des questions, ou de me faire préciser des choses, on peut... Encore un peu?
Oui.
Bon. Peut-être alors quelques mots sur... tout à l'heure, je vous ai parlé de différentiel hein, entre formation, conseil, thérapie, coaching. Je vais essayer d'illustrer ça. Je vais prendre un exemple. Un jour, on m'envoie un jeune manager de 31 ans qui, paraît-il, a des difficultés avec son équipe. Bon. Oui, on dit c'est pas un bon manager, ça marche, il a un beau potentiel, c'est pas un bon manager. Et en parlant avec lui, je découvre qu'en fait, il n'a jamais eu mais même pas une journée de formation à ce que c'est que le management. Qu'est-ce que c'est qu'encadrer une équipe? Quelle est la responsabilité d'une équipe? On n'a jamais formé à ça. On forme peu ou pas du tout dans le système éducatif, jusqu'au lycée, jusqu'à la fin jusqu'au bac. On forme très très peu dans les écoles, dans les grandes écoles, un petit peu plus dans les écoles supérieures de commerce, mais on n'est pas au top en France sur la formation au management. Ben, pourquoi on commence par un coaching? Il suffisait peut-être de commencer par une formation. Parce que c'est vrai que pour encadrer une équipe, il faut commencer par apprendre un certain nombre de choses. Il y a des règles de base à connaître sur le fonctionnement d'un groupe, sur la conduite d'une réunion, sur la manière de conduire un entretien. Ça s'apprend. Donc, voilà un exemple où le coaching n'était pas bien choisi. Il fallait commencer par la formation, un accompagnement dans lequel j'acquiers un certain nombre de connaissances en termes de savoir et de savoir-faire. Deuxième cas. je rencontre un jour une personne dans une grande entreprise du service public qui a 45 ans, qui est en situation difficile dans son poste. Ça fait 2 ans qu'elle est responsable d'une petite équipe. Et pendant l'entretien qui dure 1 heure, elle s'effondre en larmes 3 fois. Hein, en parlant de ses difficultés, du fait qu'elle n'y arrivera jamais, qu'elle ne sait même pas pourquoi elle est à ce poste-là, qu'elle n'en peut plus, etc. Elle me glisse au passage, elle me parle d'un divorce récent, de la difficulté d'avoir en charge ses 2 enfants, etc. Là, clairement, le besoin, il n'est pas professionnel. Elle est en dépression. Ce dont elle relève, c'est d'abord d'un médecin qui va pouvoir lui donner quelque chose qui va lui permettre déjà de tenir le coup dans un premier temps, et puis d'un accompagnement de type thérapeutique pour qu'elle travaille les difficultés qu'elle traverse. Je dirais que ce qu'elle vit dans l'entreprise n'est qu'un symptôme de la difficulté qu'elle a dans sa vie tout court. Donc le coach ne peut pas grand-chose, là, dans une situation de dépression. Il ne faut pas se tromper de cible, on ne peut pas prendre en charge quelqu'un qui ne va pas bien, et qui n'est pas dans une dynamique de pouvoir, qui n'a pas les moyens à l'heure actuelle de réussir. Je ne peux même à la limite que la renforcer dans un cercle vicieux en essayant de la mettre en situation, d'améliorer la situation, elle ne va pas y arriver, et elle va être encore persuadée qu'elle est vraiment plus nulle qu'elle le pensait. Donc on ne s'en sort pas. Ce n'est pas le coaching, et je ne l'ai pas prise en coaching. Un autre jeune homme qui vient, qui a créé un commerce, hein, il a voulu créer une épicerie fine, une épicerie de luxe, hein, plutôt, depuis 2 ans, et puis ça tourne pas bien, c'est morose, l'affaire, il fait pas de chiffre d'affaires suffisant, il ne peut même pas se payer, ça se passe pas bien, alors du coup il doute de lui, est-ce que je suis bien capable de faire ça? Donc il vient voir le coach. Et chemin faisant, en discutant avec lui, je découvre qu'il n'a pas fait d'études de marché, qu'il n'a pas bien repéré ce que c'est que ce genre de commerce, qu'il y a en ce moment des filières émergentes comme le bio qu'il n'a pas du tout pensé à travailler. Et je lui dis, mais pour l'instant, ce n'est pas tant votre problème en tant que personne pour réussir. Il vous manque un professionnel. Ça, c'est du marketing, c'est de l'analyse de marché. Vous avez besoin d'un consultant, donc vous avez besoin d'un conseil. Quelqu'un qui est dans ce secteur-là, en tant qu'expert pour vous aider à mettre en œuvre les bonnes stratégies de communication, de choix de produits, etc., pour réussir dans votre business. Donc oubliez le coach et voyez le consultant en marketing. Donc on voit bien que à l'heure actuelle, on a toute une palette d'accompagnement et qu'il ne faut pas se tromper de couleur sur la palette. Hein? Chacun a ses compétences dans son domaine et le coach ne peut pas se substituer au thérapeute, ne va pas se substituer au formateur. Moi, j'ai la particularité de coacher des cadres dirigeants. J'ai accompagné en coaching plusieurs directeurs généraux de grosses entreprises françaises. Je suis totalement incapable de prendre leur poste et j'en ai pas envie. Donc je ne sais pas faire à la place de mes clients. Je ne sais pas pour eux ce qui est bon. Je ne le sais pas à leur place. Eux vont trouver ce qui est bon et me font confiance pour les y accompagner. C'est ça la différence. Mais en revanche, si vous me demandez des conseils de marketing, je suis complètement incompétent, j'ai aucune expertise. Même pour tout vous dire, je suis patron de 2 entreprises, mais je ne suis pas un très bon manager. Mais par ailleurs, je peux tout à fait coacher des managers et les aider à être meilleurs. Ça fait partie de cette démarche d'accompagnement. Donc, avant de vous laisser la parole, donc je voudrais rappeler juste une chose, parce que vous allez entendre, peut-être en arrivant dans le monde du travail, ou vous pouvez entendre au travers des médias, on nous parle maintenant du manager-coach. Donc le manager, le chef qui en plus serait le coach de ses collaborateurs. C'est n'importe quoi, un manager, c'est un manager. Donc il n'est pas là pour coacher ses collaborateurs, il est là pour faire en sorte que dans le meilleur état d'esprit possible, avec la meilleure efficacité, le travail se fasse. Il n'est pas là pour coacher. De la même façon, parent-coach. Déjà que parent, c'est pas facile. Vous ne savez pas encore, mais vous découvrirez bientôt que c'est le seul boulot auquel personne ne va vous préparer. On ne va jamais vous expliquer comment ça fonctionne. Et pourtant, vous allez l'exercer pour beaucoup toute votre vie. Et on peut vous assurer que ce n'est pas qu'une partie de plaisir toujours. Hein. Mais en tous les cas, un parent n'est pas un coach. Un parent, c'est un parent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui élève, qui éduque, du moins qui essaye, qui doit donner un cadre de vie, qui dit cadre, il doit faire respecter aussi le cadre et les règles, mais c'est un parent, c'est pas un coach. Donc cette espèce de mode qui consiste à coller coach à côté de n'importe quel mot, c'est une mode stupide, Mais ça passera, c'est pas grave. Hein. C'est quand les médias auront enfin trouvé quelque chose d'autre, on parlera plus de coaching, mais le coaching, rassurez-vous, ça continuera à exister.